Chapitre 48. J'avais reçu mon avis de mutation exceptionnelle une semaine après l'avoir envoyé par Internet. J'étais étonné d'une telle rapidité. Habituellement, une demande comme la mienne pouvait prendre plusieurs mois, sauf si j'avais été en danger de mort. J'étais déjà mort, émotionnellement, mais ça, la hiérarchie s'en fichait. Comme j'étais ouvert à toute destination, ils m'avaient trouvé un poste immédiat, ça avait dû les arranger. Ma demande était arrivée sur la pile au bon moment. Chartres. Je ne savais même pas trop où c'était. Plutôt dans le nord-est. Moi qui situe le Mont-Saint-Michel dans le massif central, je me méfie de mes notions de géographie. À quoi bon, de toute façon? Je ne cherchais pas une belle religion, je voulais juste quitter celle-ci. Couper la main sous le poignet pour oublier la blessure au doigt. C'était débile. Je tenais à ma main. Je tenais à Marie. Mais alors quoi? Mettre un pansement et continuer à souffrir? Souffrir de passer au second plan quand il était question de sa mère? Souffrir de ne pas vivre avec elle et de la voir se contenter de cette situation? J'avais mal au cœur, brisé en deux, comme un petit beurre. Plein de miettes partout. J'aurais voulu qu'elle m'appelle pour me dire qu'elle était désolée, qu'elle m'aimait et qu'elle allait tout faire pour qu'on vive ensemble, y compris accepter cet argent, mais rien. Je ne comprenais pas ce qui se passait. On était pourtant les plus heureux de la terre. On s'entendait sur tout. On faisait l'amour avec un plaisir indescriptible. On avait les mêmes projets, la même vision de la vie. Et patatras. Peut-être qu'on s'aimait trop. Ou peut-être que je m'étais fait un film depuis le début. J'avais une semaine devant moi, en disponibilité, pour faire mes cartons et aller les déballer là-bas. Le soir même, tout était fini. Vivant dans un meublé, mes affaires personnelles se résumaient à peu de choses. Quelques fringues, un peu de matériel hi-fi, mon vélo, mes albums de dessin. Et mon piano que j'avais mis en garde-meuble, en attendant de savoir où j'atterrissais. Le lendemain matin, alors que je chargeais ma voiture, j'ai entendu un bruit familier. Le son précédait l'image. La bétaillère d'Antoine est alors apparue au coin de la rue. Je ne sais pas s'il était venu me dire au revoir, mais il aurait pu choisir autre chose comme moyen de locomotion. Tout le monde le regardait. Antoine s'en foutait maintenant du regard des autres. Il en avait assez souffert. Il s'est arrêté au milieu de la route, comme les livreurs peu scrupuleux, a mis ses warnings et est venu vers moi. « T'allais partir sans dire au revoir ?»« Je t'ai écrit une lettre. Tu ne l'as pas reçue ?»«
Ici.
T'as fini là ?» Je ferme l'appart, je donne les clés à la voisine, j'attache mon vélo et je pars. Mets-le dans la bétaillère, ce sera plus simple et suis-moi en voiture. Mais le vélo...
Discute pas!
Je n'ai pas discuté. Il avait l'air tellement déterminé que je n'ai pas cherché à le contrarier. Un vague souvenir de piano. J'avais une semaine pour m'installer là-bas. S'il voulait faire un tour avec moi après tout, ça me permettait de lui dire au revoir. Il s'est arrêté devant le parking de la gare, m'a fait signe de garer ma voiture et m'a fait monter à l'avant de sa bétaillère. « Tu peux m'expliquer où tu m'emmènes ?»«
Bah non, justement, je peux pas t'expliquer. Tu t'attaches qu'on soit en règle avec les gendarmes.
Ils sont pas arrangeants, j'en connais un.
Et tu me parles de ta vie, ou de politique, ou même de foot. Ce que tu veux. »
Il a pris la direction de Tarbes, puis de Biarritz. On s'est arrêté pour acheter le journal et un casse-croûte, et je lui ai lu les nouvelles du jour pendant qu'il roulait. Quand il a pris la direction de la vallée d'Aspe, j'ai vraiment commencé à me poser des questions. Qu'est-ce qu'on allait foutre avec une bétaillère dans la vallée de mon enfance? J'ai eu le cœur serré en passant le village de Madeleine. On voyait le cimetière de loin, à flanc de coteau. Et puis nous sommes arrivés dans une ferme, un élevage de brebis. Il avait roulé comme un dingue, et moi j'avais le mal de mer. L'homme semblait connaître Antoine. Le lot de brebis était prêt. Finalement, on n'a pas eu besoin du casse-croûte, parce que la femme du type avait fait la cuisine pour tout le monde. Antoine ne voulait pas s'attarder, il avait prévu le retour dans l'après-midi. Mais le retour vers où? Il voulait les prendre chez lui. Il se mettait au fromage de brebis maintenant.
On a chargé une bonne épaisseur de paille avant de faire monter les moutons. Antoine avait accroché mon vélo en hauteur. Je suis allé pisser dans le fossé avant de partir, l'apercevant fixer encore une grosse caisse en bois à l'arrière de la bétaillère. À 14 heures, nous reprenions la route.
Et tu ne veux toujours pas me dire ce que tu veux faire de ces brebis?
Je veux me diversifier. J'en ai marre des alexandrins. Les brebis, ça parle en prose.
Et la caisse en bois, c'est quoi?
Une caisse en bois.
Ok. J'ai fini par m'endormir, bercé par le ronron de la bétaillère. Je n'avais quasiment pas dormi depuis une semaine. Le visage de Marie devant les yeux. À 18h30, nous étions devant la gare de Foix. Il m'a dit de prendre mes papiers et de le suivre. Tous ces mystères commençaient à sérieusement me courir sur le haricot. J'aimais bien Antoine, et ça devenait vraiment lourd. Et puis, quand nous sommes arrivés sur le quai numéro 3, et que j'ai vu Suzy se précipiter vers moi et me sauter au cou, j'ai commencé à comprendre. Comprendre que depuis ce matin, Antoine avait entrepris de nous raccommoder, Marie et moi. Elle était au bout du quai, assise sur un banc. Elle s'est levée, m'a souri un peu étrangement, juste avant qu'Antoine ne nous donne une grande enveloppe et dise à Suzy de nous faire un bisou. Et puis, ils ont disparu dans l'escalator, en se tenant par la main et en rigolant comme des tordus.
Le train en provenance de Biarritz et à destination de Marseille va entrer en gare. Éloignez-vous de la bordure du quai.
Nous sommes montés dans le wagon, en cherchant le numéro de place qui figurait sur les billets agrafés à l'enveloppe. Et le train est reparti. On ne s'est pas embrassé tout de suite. On s'est d'abord tenu la main en regardant par la fenêtre. Le silence valait bien plus que n'importe quel discours. Au bout d'une heure de trajet, elle m'a chuchoté dans l'oreille. « Je te demande pardon. » Nous avons relevé la coudoir entre nous deux et je l'ai prise dans mes bras jusqu'à Montpellier. Un peu avant d'entrer en gare, je lui ai chuchoté. « Moi aussi. » En ouvrant l'enveloppe, elle a souri.
« Je crois qu'il nous a préparé un jeu de piste. Ces vieux restes scouts, sûrement. »
Il nous avait inscrit l'adresse du notaire. Nous avions rendez-vous à 11h le lendemain matin et reprenions un train à 15h. En arrivant à la gare de Montpellier, à minuit, nous devions prendre un taxi et indiquer une adresse au chauffeur. Quand celui-ci nous a déposés devant l'hôtel, on s'est d'abord dit que ça devait être une erreur. Il y avait 4 étoiles sur la plaque de l'entrée. Mais à la réception, Marie était bien inscrite sur la liste de réservation. Chambre 69. Quel con! Ça nous a fait rire. On s'est embrassés comme des adolescents dans l'ascenseur. J'ai soulevé ses 2 jambes autour de mon bassin, tenté d'appuyer sur le bouton stop, mais il était déjà immobilisé à notre étage. En entrant dans la chambre, Marie a écarquillé les yeux en ouvrant la bouche. Elle essayait de parler, ses lèvres bougeaient, mais aucun son n'en sortait. Elle effleurait tout du bout des doigts comme pour en vérifier la réalité. La chambre était immense, le lit aussi large que long, de jolies couleurs pastel éclairées d'une lumière tamisée. Quand elle est entrée dans la salle de bain, elle s'est appuyée au mur un instant. J'ai cru qu'elle allait s'évanouir. Il y avait dans le coin une immense baignoire d'angle avec une sorte de télécommande. Tout brillait partout. J'ai fermé la bonde et j'ai fait couler de l'eau. En mettant la dose de bain moussant, quand je me suis retourné, elle n'était plus là. Assise sur le bord du lit, elle souriait à peine, avec la bouche un peu entrouverte.
« C'est pas possible, tout ce luxe. Ça me met mal à l'aise. »
« Profites-en, Marie. C'est peut-être la dernière fois que ça nous arrive. » Et puis, tu auras des choses à raconter à Suzy. Ensuite, je nous ai déshabillés et je l'ai portée dans la baignoire. Elle était dans mes bras, Marie, ma petite Marie. Si Antoine n'avait pas été là, je serais quelque part à Chartres, dans un hôtel pourri de la périphérie, à me morfondre dans ma solitude. Et là, Là, j'avais la femme la plus séduisante au monde dans le creux de mon épaule et dans un bain chaud. Ses petits tétons ressortaient de la mousse comme deux framboises au milieu d'un plat de chantilly. J'adore les framboises. Après, elle s'est amusée un moment avec la télécommande du bain bouillonnant. Je crois que j'étais en érection depuis l'ascenseur. Et elle, qui jouait à faire des grosses bulles dans mes fesses, des petites partout, des petites et des grosses, une lumière bleue, puis rose, puis verte, puis bleue, des petites bulles, et de nouveau des grosses. Elle était comme une petite fille un soir de Noël avec son nouveau joujou, se tortillant contre les parois comme un ours contre l'écorce. Et je sentais mon phare breton ballotté par tous ses remous, mais toujours droit dans la tempête, avec la lumière au bout, celle de mes neurones qui dansaient la samba. J'ai fini par la faire pivoter, et on s'est emboîté dans l'eau sans se quitter du regard. J'avais l'impression qu'elle essayait de voir derrière mes globes oculaires ce qu'il y avait au fond. Elle avait de la mousse sur le bout du nez et moi dans tout le cerveau. Quand l'eau est devenue tiède, nous nous sommes réfugiés dans les deux grands peignoirs moelleux qui chauffaient sur le radiateur. Un moment de pur bonheur. Ils étaient tellement confortables que nous les avons gardés pour faire l'amour encore une fois sur le grand lit, en commençant par honorer le numéro de la chambre et en finissant épuisé à 3 heures du matin, tombant de sommeil et d'emballement cardiaque. Nous avons dormi dans nos peignoirs. Après un petit déjeuner pantagruélique, nous sommes remontés dans la chambre faire l'amour une dernière fois, sous nos 4 étoiles. C'est là qu'on a décidé d'avoir 4 enfants. Suzy était déjà là, plus que 3. J'ai embarqué les peignoirs en les bourrant dans son petit sac. Un appel au standard pour qu'il les rajoute sur la facture. Je suis comme ça. Madeleine. Madeleine. Marie m'a demandé si je pouvais aussi prendre la baignoire télécommandée. Nous sommes descendus dans le hall. Je sentais un peu le mouton, mes habits de la veille étant les seuls dont je disposais. Mais Marie ne semblait pas avoir remarqué. J'espérais que le notaire en fasse de même, mais peu importait. On ne le reverrait jamais. Quand la réceptionniste nous a tendu la note, Marie s'est accrochée au comptoir et crut qu'elle me refaisait le coup de la salle de bain. Elle a eu un petit rire nerveux en cherchant son chéquier dans son sac à main. Je l'ai prise de court avec ma carte bancaire. Ça ne m'a fait ni chaud ni froid de dépenser la moitié de mon salaire pour cette nuit magique. Et encore, il n'avait pas compté les peignoirs. Le prix de mon honnêteté. Le notaire a fait son travail sans beaucoup de fantaisie. Il a rappelé à Marie les termes de l'acceptation de l'héritage.
Y a-t-il des conditions particulières pour l'accepter ?
Aucune. Votre mère n'avait pas d'autre enfant, pas de mari. Vous êtes la seule à bénéficier de ce legs. Elle m'a demandé de tout vendre à sa mort et de vous remettre un chèque, que voici. Marie tremblait en le saisissant. Elle l'a mis dans une enveloppe qu'elle a pliée en deux pour la mettre dans une petite pochette en cuir qu'elle a enfermée dans la poche intérieure de son sac à main. C'était mignon toutes ces précautions.
Elle m'a aussi demandé de vous remettre cette lettre, mais vous n'êtes pas obligé de la lire en ma présence.
Là, je me suis demandé si elle avait une crise subite de Parkinson, parce qu'elle avait du mal à rouvrir la fermeture de son sac pour y ajouter la lettre. J'ai posé ma main sur son épaule. Elle a poussé un gros soupir, comme pour se ressaisir. J'ai pris la lettre et l'ai mise moi-même dans son sac, parce que Marie ne ressaisissait rien. En sortant, elle m'a pris la main et on a marché un peu. Quand je me suis tournée vers elle pour l'embrasser, elle pleurait en silence. J'ai serré sa main un peu plus fort et nous sommes allés boire un café. Avant de se rendre à la gare, elle a voulu déposer le chèque à sa banque pour se sentir plus légère. Ce chèque devait peser 3 tonnes à ses yeux. Ça n'a pas changé grand-chose. Il restait la lettre. 2 tonnes. Au moins l'argent était en sécurité. C'était une fortune pour Marie. Et pour moi donc.